Europe 1.
Europe 1, 10h-11h, Mediapolis. Olivier Duhamel.
Bonjour à tous, c'est samedi le meilleur jour de la semaine, notamment parce que c'est Mediapolis. L'émission sur les rapports entre médias et politiques réalisée par Jean-Luc Arblade et préparée par Paul Lassen. Et avec nous aujourd'hui, au moment où s'achève le grand débat, deux politologues, Gilles Delannoy, directeur de recherche au CEVIPOF et qui vient de publier le tirage au sort aux presses de Sciences Po, et le très connu Pascal Perrineau, qui, en plus d'être professeur émérite à Sciences Po, politologue très médiatique, est un des cinq garants du grand débat. Et pour commencer, Canteloup sur Castaner, hélas.
Alors maintenant, c'est la vraie question. C'est la vraie question qui fâche. Du coup, je ne vais pas y aller, moi. Je vais laisser Jean-Michel Apathy y aller.
Christophe Castaner, quand même, le ministre intérieur, a été photographié en boîte de nuit, un soir de gilets jaunes. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, écoutez, je suis pas du matin. Donc, pardonnez-moi. Donc les boîtes de nuit, c'est pas mon... Bon, alors, écoutez, ce que je peux vous dire, c'est la vie privée d'un ministre ne m'intéresse pas et il a toute ma confiance.
Vous avez raison. La vie privée ne m'intéresse pas moi non plus. Enfin, quand même dessous, l'histoire de bonne gesse. Il y a du collet serré, il lui mate les nichons, il y a des petits bisous dans le cou. Il y a peut-être une galoche, il faudrait demander le ralenti là-bas. Je dis qu'il y a quand même quelque chose. En tout cas, si on ne va pas sur le côté de la vie privée, au niveau de l'exemplarité, un soir de gilet jaune.
Écoutez.
Qu'est-ce que vous répondez à ça, monsieur Philippe?
Je suis très à l'aise pour vous répondre. Non, mais parce qu'après vous allez revenir sur la vie privée.
Quelle histoire de Michel là-dessous.
Allez, bon. Bah justement, tiens, on va en parler avec l'intéressé, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui a donc été photographié dans la nuit de samedi à dimanche dernier, dans une dichotomie de l'Hôtel Grand Chêne de Paris. Et on est en direct avec Christophe Castaner.
Eh bonsoir, c'est votre ministre de l'Intérieur, DJ Castaner. Bienvenue au Macumba. Cette grande soirée spéciale, flic ou voyou, avec casquette en cuir et soirée menottes. Entrée gratuite pour les filles, en revanche, ne rentrez pas ni en basket ni en gilet jaune. Pour le prochain disque, je vois tout le monde sur la piste, les bras en l'air, tout le monde les bras en l'air. On y va. C'est sur une musique de mon groupe préféré. Vous avez tous les bras en l'air. Attention, c'est le groupe Police, les bras en l'air. Rockstar.
Nos invités rient beaucoup. Alors d'ailleurs, il vaut peut-être mieux en rire qu'en pleurer. Et je recommande à ceux qui voudraient voir Édouard Philippe de prendre le replay sur europe1.fr, parce que dans la vidéo, Édouard Philippe est envahi par son fou rire. Cela dit, au-delà du rire, je pense qu'il y a une vraie question que je voudrais formuler comme suit. Est-ce qu'il est normal d'abolir intégralement la frontière entre la vie privée et la vie publique et de pourchasser au milieu de la nuit un ministre dans des boîtes de nuit pour ensuite mettre ça en vidéo sur YouTube ou je ne sais quoi et en faire des photos publiées et relayées par la presse entière? Pascal Perrineau.
Non, ça me semble anormal. Tout homme public, quelle que soit sa position éminente, doit avoir des espaces de vie privée et de vie privée qui doivent être respectés. Et là, on a peu à peu l'impression, année après année, mois après mois, que cet espace de la vie privée pour les hommes publics devient de plus en plus ténu. Surtout qu'il n'y a rien de condamnable à aller danser quand on est un ministre. Je ne vois pas très bien ce qu'il y a sur le fond de condamnable.
Vous répondrez que vous n'êtes pas l'épouse du ministre. Gilles Delannoy.
Oui, bah, ce qui est étonnant, c'est que la protection de la police n'est pas suffi à assurer la discrétion des actes. Mais je crois qu'au-delà, Le paradoxe, c'est qu'on on se plaint de ça, et la plupart d'entre nous, pas moi, mais nous mettons notre vie privée sur des réseaux sociaux volontairement. Donc il y a une ambivalence assez, assez profonde entre le narcissisme d'un côté et la volonté de ne pas être vu en permanence.
Et puis, par ailleurs, je pense que les médias qui voudraient respecter cette ancienne frontière sont en vérité piégés. Parce qu'à partir du moment où un s'est publié ou deux, il y a 3, 4, 5, 8 médias qui le reprennent, c'est totalement impossible qu'on dise bah, « nous, sur notre radio ou nous, sur notre chaîne télé, on n'en parlera pas ». C'est juste impossible.
Sûr, il y a des effets, en effet, d'imitation qui ne sont pas nouveaux dans le monde médiatique, où, en effet, les médias s'alignent quelque peu de manière excessive les uns sur les autres, même sur ce qu'il y a de plus condamnable.
Bon, donc on peut condamner et ça ne sert absolument à rien. Voilà qui est assez joyeux. Alors, du coup, j'ai envie de ne pas m'y arrêter plus longtemps et de vous proposer, comme ça, ça nous laissera un peu plus de temps, de passer au principal sujet de l'actualité qui, d'ailleurs, fonde votre invitation, à savoir la fin du grand débat. Alors, écoutons déjà le propos d'un opposant, François Baroin.
Alors là, pour l'instant, c'est l'incertitude et c'est un grand brouillard à couper au couteau. Je comprends qu'ils prennent du temps, je comprends qu'il faille analyser justement toutes les préoccupations qui ont été remontées. Il y a des problèmes de pouvoir d'achat, il y a des problèmes de pression fiscale, il y a des problèmes de cohésion territoriale. On n'est quand même passé pas loin de la catastrophe au mois de décembre. Et ce qui a sauvé le président Macron sur nos institutions. On revient de très très loin. Donc que le président de la République se soit impliqué autant, s'appuyant sur les maires, ce qui est un grand succès pour nous, de la restauration d'un dialogue républicain, à titre personnel, ça ne me choque pas.
Eh bien, vous avez bien entendu, François Baroin, c'était sur Europe 1 jeudi. À titre personnel, ça ne me choque pas. Eh bien, figurez-vous que ici, nous avons un des 5 garants qui, à titre pas du tout personnel, mais à titre de garant, avec ses collègues, a considéré, lui, que ça le choquait, Pascal Perrineau, et qui a critiqué l'omniprésence, l'excès de présence du président de la République dans ce débat. Donc débat sur le débat sur la place du président, débat sur est-ce que les garants ont eu raison ou tort de le rappeler à l'ordre, dans quelques instants.
Olivier Duhamel sur Europe 1.
Comme chaque samedi, on vous retrouve, Olivier Duhamel avec Mediapolis. Et ce matin, vous recevez le directeur de recherche au CEVIPOF, Gilles Delannoy, et le politologue et garant du grand débat, Pascal Perrineau.
Et oui, et d'ailleurs, je vous signale, c'est reparti. On a les gilets jaunes sur les 4 chaînes info en même temps. Si vous voulez entendre sur autre chose, par exemple sur l'atroce attentat qui a eu lieu en Nouvelle-Zélande, il faut aller sur CNN. Je reviens à mon sujet. Gilles Delannoy, avant que le garant ne nous réponde, vous avez deux avantages par rapport à lui. D'une part, vous n'êtes pas dans l'institution des garants, donc vous n'êtes pas obligé de trouver des trucs pour montrer que vous êtes utile. Et d'autre part, vous avez une pleine liberté à l'égard du sujet en soi. Est-ce que vous pensez que la critique des garants, selon laquelle le président de la République et le gouvernement se sont trop impliqués et devraient lever le pied dans ce grand débat, est fondée ou non ?
Je pense qu'elle est en partie fondée. Alors, il est assez normal, puisque la décision de faire ce débat, c'est quand même avant tout la décision du président. Donc, il est tout de même normal qu'il s'implique dans les conséquences de sa propre décision, en allant à la fois écouter et parler. Ensuite, c'est le rapport entre le temps d'écoute et le temps de parole qui peut être discuté. Effectivement, s'il parle autant qu'il écoute, on entre peut-être dans un processus qui ressemble à une campagne électorale, et ça n'est pas exempt de toute critique.
Pascal Perrineau.
Les garants, ils devaient garantir certaines choses, et en particulier la charte du Grand Débat qui est inscrite sur le site du Grand Débat national qui a été mise en place pour recueillir les contributions des Français qui décident de s'impliquer dans ce Grand Débat. Parmi ces principes, il y a le principe de neutralité. Les 5 garants ont dit dès le début, hein, ça n'est pas nouveau, on dit dès le début, dès fin janvier, dès février, il était utile dans un premier temps que le président communique et que le gouvernement communique parce qu'il s'agissait d'un processus entièrement nouveau et que cela pouvait avoir un impact de mobilisation. Mais que cette communication gouvernementale et présidentielle dure à haute intensité pendant 2 mois, ça nous a semblé excessif. Le président et les gouvernants ont considéré qu'il fallait continuer cette communication, dont acte.
Oui, mais après, ce greffe-lettre, d'abord, il y a quand même eu des milliers et des milliers de débats à la base dans lesquels il n'y avait ni le président de la République, ni les ministres. Est-ce que vous n'êtes pas un peu déformé par ce qui passe à la télé, c'est-à-dire...
Non, non, je ne crois pas. Prenons quelque chose de tout à fait intéressant. Il y a quelques jours, l'Institut Elab a fait, sur un échantillon national représentatif de Français, un sondage sur la perception du grand débat. Et il y a deux chiffres intéressants. Il y a d'abord une très forte majorité de Français qui disent « c'est intéressant cette affaire hein ». Et cela explique certainement la participation élevée de Français au grand débat national. Et ensuite, on les interroge sur la fiabilité du processus, sur l'indépendance du processus. Et là, c'est une majorité extrêmement forte qui considère que ce processus voilà, est entaché de quelque chose qui relèverait de l'influence. Bien. Donc, on voit bien qu'il y a quelque part une tension entre un processus qui est perçu comme étant tout à fait positif, et d'ailleurs le Collège des Garants a répété que le bilan même de ce processus était tout à fait positif, mais qu'il y avait un problème. Et quelque part, les Garants, en disant attention à ce principe de neutralité, cherchaient plutôt à protéger le gouvernement et le président contre leurs propres tentations.
Mais est-ce que ce n'est pas positif l'influence ? Est-ce que le principe même d'une confrontation des dirigeants avec les dirigés, des gouvernants avec les gouvernés, du président avec des citoyens et des élus de base, n'a pas pour fonction même de l'influence réciproque ? C'est-à-dire que lui exerce une influence en développant son point de vue et qu'eux exercent une influence sur lui, Gilles Delannoy.
Oui, bien sûr, mais je pense que dans tradition républicaine, il faut que ça soit un débat équilibré.
Hein, oui, mais est-ce qu'on n'a pas de l'équilibre, une conception ? Oui. Quand je vois qu'on est en train de discuter pour savoir qu'est-ce qui va être décompté, pas décompté dans la campagne pour les européennes, ça c'est quand même un truc français de l'obsession du comptage, du chiffre, de l'idée que je trouve personnellement intégralement débile, que plus on voit quelqu'un à la télé, meilleur c'est pour lui, alors qu'assez souvent
ça
c'est
peut se retourner contre
donc
lui.
Si on voulait faire ça vraiment intelligent, on devrait dire avec des évaluateurs indépendants, il a été mauvais, donc on le décompte pour ses adversaires. Vous voyez, si on vous poussait plus loin, et quand je dis ça, tout le monde va dire c'est absurde. Mais c'est encore plus absurde de dire comme il est passé à la télé, on va décompter ça. Et en plus, d'une manière en plus catastrophique pour ces pauvres candidats aux européennes, parce que la Commission nationale de contrôle a dit qu'elle donnerait les règles et de ce qui est compté et de ce qui n'est pas au mois d'août, à la fin, après. Donc comment voulez-vous qu'ils fassent, les gens ? Et ça, c'est quand même. Ça a quelque chose d'absurde, quoi.
Non, mais Olivier, on est dans un processus qui est en train de se terminer, où depuis le 15 janvier, on a laissé un espace à ce qu'on pourrait appeler la démocratie citoyenne.
D'accord.
Et nombre de citoyens se sont emparés de cela.
D'accord.
Et je crois qu'il était bon, du moins c'était le regard, et c'est toujours le regard des Garants, qu'on laisse cette démocratie citoyenne faire son œuvre, sans trop d'influence extérieure. Par exemple, il y a eu, vous le mentionnez, beaucoup d'organisations, de réunions d'initiatives locales, comme on les appelle, organisées sur le territoire national, oui. Plus de 10 000, hein, c'est énorme. Et très souvent, la moitié d'entre elles était organisée par des maires.
Oui.
Eh bien, dans à peu près trois quarts des cas, les maires accueillaient et ensuite s'en allaient, et afin de ne pas interférer sur le débat. Et lorsque j'ai vu des députés, des maires, rester intervenir, on voyait bien qu'on n'était plus dans la démocratie citoyenne, on était dans autre chose, une réunion d'information d'élus. Ça n'est pas tout à fait le processus de la démocratie citoyenne tel qu'il a pu, bien sûr.
Non, vous exagérez, une réunion d'information d'élus, c'est pas parce que le maire est là qu'il n'y avait pas de débat entre le maire et les citoyens.
Oui, mais c'est pas, la démocratie citoyenne n'est pas là pour ça. Ce n'était pas des réunions d'information.
Non, mais, mais moi je vous dis que alors, même quand le maire est là, ce n'est pas que de l'information, puisqu'il y a aussi de l'interpellation,
bien sûr,
des propositions, etc.
Mais voyez bien, par exemple, depuis hier, ont commencé dans de multiples régions les conférences citoyennes régionales.
Alors, attendez, je vais vous dire un truc. Voilà, je vais vous dire un truc. On va y venir.
Bon, très bien.
D'autre part, vous ne m'avez pas du tout convaincu, mais vous êtes extrêmement convaincant. Voilà. On continue dans quelques instants.
10h-11h, Mediapolis avec Olivier Duhamel sur Europe 1.
Mediapolis continue jusqu'à 11h avec vous, Olivier Duhamel, mais avec aussi vos deux invités, Pascal Perrineau, politologue et garant du Grand Débat, et Gilles Delannoy, directeur de recherche au CEVIPOF et auteur du livre Le Tirage au Sort.
Et nous sommes en édition spéciale pour l'acte 82 des Gilets jaunes, avec quelques dizaines de Gilets jaunes dans Paris. Non, je plaisante, nous sommes justement pas sur ce sujet-là, mais sur le grand débat. Et alors, grâce à la présence de Pascal Perrineau, qui est un des garants, et de Gilles Delannoy, qui vient de publier sur le tirage au sort, donc, on va y voir un peu plus clair dans une chose qui est un petit peu compliquée, et d'autant que ça s'est ajusté en marchant. On dit c'est la fin du grand débat et puis on dit le grand débat continue, donc personne n'y comprend rien. Alors en vérité c'est la fin de quoi? C'est la fin du grand débat à la base, c'est-à-dire c'est la fin de multiples débats où on veut par qui veut, comme il veut, ou de contributions mises sur Internet.
L'acte.
Et donc c'est, voilà, c'est Gilles Delannoy me le souffle, c'est l'acte 2 du grand débat avec des conférences régionales. Et en même temps, il y a eu cette semaine, mais je dois dire dans une discrétion assez étonnante, des conférences nationales. Pourquoi est-ce qu'il y a eu des conférences nationales? Parce que les syndicats, la CFDT, d'autres réclamaient depuis le début un grand Grenelle du pouvoir vivre. Le pouvoir politique n'en voulait pas. Il a fait un truc intermédiaire, des conférences nationales dont on n'a presque pas parlé. Et donc ça, c'est pas un triomphe. Et en revanche, ce week-end, enfin hier et aujourd'hui, et vendredi prochain et samedi prochain, sont organisées en région des conférences sur les grands thèmes du grand débat. À l'origine, on nous avait annoncé que ces conférences associeraient des citoyens tirés au sort avec des élus, des représentants des associations et des syndicats. Finalement, ce ne sont que des citoyens tirés au sort. Alors avant que Pascal Perrineau nous explique cet ajustement et ce qu'ils font, Gilles Delannoy, vous démontrez assez bien dans cet excellent petit livre que vous venez de publier que beaucoup des critiques qu'on fait et des préjugés à l'encontre du tirage au sort sont erronés. Alors, sans nous raconter tout votre livre et vous tenir en alerte jusqu'à minuit, est-ce que vous pouvez nous dire l'essentiel des idées fausses à propos du tirage au sort?
Oui, ben la première, c'est le hasard. Ce n'est pas le hasard. Le hasard, c'est au contraire, on essaie d'éliminer le hasard par un effet statistique. La deuxième, c'est que c'est une procédure parmi d'autres, et comme toutes les procédures, mais on peut dire exactement la même chose du référendum ou du Parlement, on ne peut pas être pour ou contre, c'est les détails qui comptent. Mmh. Donc ce qui compte, c'est comment on fait le tirage au sort et non pas le fait d'en faire. Donc on peut, de mon point de vue, c'est absurde de dire je suis totalement pour ou totalement contre. Et le troisième point que masque un peu l'usage qui est fait actuellement, c'est qu'on peut avoir un tirage au sort très démocratique sur la base de la totalité de la population en âge de voter, mais c'est une procédure qui, exactement comme le vote, peut aussi servir dans des cadres beaucoup plus élitistes où seuls les gens compétents, qui ont été triés par leur diplôme ou par d'autres raisons, peuvent être ensuite tirés au sort parce qu'on estime que dans l'ultime phase de leur sélection, un tirage au sort aura plus d'avantages qu'un vote ou une cooptation.
D'accord.
Et voilà. Et pour terminer sur le livre, j'envisage deux points qui vont dans les sens totalement opposés, pour mettre un peu de chair sur ces idées abstraites. Une assemblée populaire consultative qui est totalement tirée au sort dans la population, et ça donne ce dont vous parliez, c'est-à-dire l'échange avec toutes les sortes de gouvernés et les gouvernants qui sont obligés de leur parler. C'est d'ailleurs une idée que le politologue américain Robert Dahl avait déjà suggérée pour les États-Unis dans les années 90. Et à l'inverse, une partie ou la totalité d'un Sénat, par exemple, peut tout à fait être choisie par tirage au sort, mais là dans des procédures très élitistes, parce que c'est des gens qui ont plus de 40 ans, qui ont fait leurs preuves, et qui sont tirés au sort parmi les candidats proposés par une sorte, au fond, de conseil économique et social et de Sénat réuni.
C'est bien, parce qu'en couvrant les deux, si jamais on décide quelque chose, on pourra dire que ça a été inspiré par Gilles Delannoy. Pascal Perrineau, alors expliquez-nous ce qui se passe là en région.
Alors, pendant deux mois, en effet, le grand débat a eu une dimension, je dirais, expressive. Moi, ce qui m'a frappé, en regardant les contributions sur le site, en écoutant ces nombreuses réunions d'initiatives locales, il y avait avant tout une fonction expressive dans cette démocratie citoyenne. Avec les conférences citoyennes régionales, on passe à une dimension davantage délibérative. C'est-à-dire que la centaine dans chaque région de citoyens qui ont été tirés au sort rentrent dans un processus sur une journée et demie où ils sont d'abord informés à leur demande des sujets sur lesquels ils travaillent. Et ensuite, ils rentrent dans un processus de discussion organisé par petites tables avec un facilitateur par table. Et en général, ils ne sont jamais plus de 8 ou 9 par table, et ils vont discuter, par exemple, toute la journée d'aujourd'hui pour ce soir parvenir à des propositions de solutions. C'est-à-dire que là, on rentre dans un processus vraiment délibératif et ce processus délibératif débouche sur des propositions de solutions. Alors qu'il faut le reconnaître, dans de très nombreuses réunions locales, c'était la fonction expressive qui l'emportait sur la fonction de délibération.
Expressive, ça veut dire protestataire, oui, défamatoire.
Pas uniquement protestataire, mais on faisait part de ses demandes, de ses inquiétudes. Et par exemple, quand vous êtes 200, j'étais récemment, par exemple, à Beauvais, il y avait plus de 240 personnes dans la salle. On ne peut pas organiser une véritable délibération en l'espace de 2 heures de temps entre 240 personnes.
Ça a dû vous faire du bien comme politologue tout d'un coup de vous confronter au monde réel.
Ah tout à fait, mais vous savez, le politologue que je suis depuis environ 40 ans se confronte au monde réel. Je suis en particulier très sensible à la dimension empirique de mon métier.
J'entends bien, mais c'est une confrontation d'un type nouveau quand même, reconnaissez.
Bah, bien sûr, bien sûr.
Parce et ça va donner quoi alors les conférences régionales vont faire des propositions.
Oui,
attendez, vous nous expliquez dans un instant.
10h, 11h, Olivier Duhamel sur Europe 1.
Gilles Delannoy, directeur de recherche au CEVIPOF, et Pascal Perrineau, politologue et garant du Grand Débat, sont vos invités ce matin, Olivier Duhamel, dans Mediapolis.
Et Pascal Perrineau brûle de nous dire ce qui va sortir et se prolonger, comment ça va se passer après les propositions dont les conférences régionales, si j'ai bien compris, vont émettre des propositions.
Voilà, vont émettre chacune des propositions. Il y a une vingtaine de ces conférences citoyennes régionales dans les régions métropolitaine et les régions d'outre-mer, qu'il ne faut pas oublier, plus une conférence citoyenne purement pour les jeunes qui aura lieu à Aix-en-Provence. Pourquoi ? Parce qu'on a pu constater en effet que les jeunes n'étaient pas absents, mais que les jeunes étaient sous-représentés dans les 2 mois de Grand Débat National. Il s'agit un peu de rectifier cette sous-représentation des jeunes.
On aurait pu en faire une spéciale ouvrier-employé aussi à ce compte-là.
Non, parce qu'il faut faire très attention. On le disait au début, la procédure du Grand Débat National est extrêmement pluraliste. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'elle est difficile à lire. Alors, autant sur le site, on a une sociologie, plutôt classe moyenne, classe supérieure. Dans les réunions d'initiative locale, c'est beaucoup plus mêlé. Et si vous prenez les 16 000 cahiers de doléances ou cahiers citoyens, là, pour les avoir beaucoup fréquentés, lus depuis des semaines et des semaines, là, vous avez une sociologie qui est beaucoup plus une sociologie de catégorie populaire.
Oui. Donc, ce qui manquait partout, c'était Gilles Delannoy, oui, vous voulez dire.
Oui, on peut remarquer quelque chose avec le tirage au sort. Là, on est dans un usage du tirage au sort qui est le même que l'usage du droit de vote. Vous n'êtes pas obligé d'aller voter.
Oui.
On peut avoir un usage encore plus strict. C'est de transformer le droit en devoir, de même qu'il peut y avoir obligation d'aller voter.
C'est le cas pour les jurés, par exemple. Quand vous êtes tiré au sort comme juré, sauf si vous prouvez que vous avez une opération, je ne sais pas quoi, vous êtes obligé.
Là, on est forcé, ça devient un devoir.
Ouais. Alors, ce qui est très intéressant dans les personnes tirées au sort, je voyais ça dans l'assemblée à laquelle j'ai assisté hier soir pour Paris-Île-de-France, c'est qu'il y avait 130 citoyens et citoyennes tirés au sort. Et ce qui était tout à fait intéressant, on leur a posé la question, mais combien parmi vous ont participé au Grand Débat National ? 9 sur 130. Donc l'intérêt...
Donc ce sont des gens complètement différents.
Voilà. C'est des gens complètement différents.
D'accord.
Et là, c'est intéressant parce que vous voyez, à la fin du processus du Grand Débat, on réintroduit une diversité citoyenne.
Et là, vous avez interdit aussi au ministre d'y aller enfin, interdit. Vous avez
on n'interdit rien du tout.
On propose
et les autres disposent. Non, on n'interdit rien du tout.
Vous avez dit au ministre, laissez-les tranquilles.
Oui, bien sûr. Les ministres, les élus n'étaient pas là. Et je crois que c'est très bien, parce que sinon les gens sont impressionnés par toutes ces autorités qui arrivent, parlent et sont des professionnels de la parole.
Et alors, est-ce que vous pensez, Gilles Delannoy, et après... Si l'ose s'engager Pascal Perrineau, est-ce que vous pensez que, à l'avenir, quand on tirera les leçons de tout ça et que... je vais poser ma question autrement. Vous êtes président de la République. Cette affaire est terminée. Vous devez faire plein de propositions. Je laisse de côté les propositions fiscales, les propositions pouvoir d'achat, les propositions écologiques. Je vais dans les propositions sur la démocratie. Est-ce que vous proposeriez que... on met une règle contraignante, par exemple dans la Constitution, comme quoi le président de la République et les ministres doivent au moins une fois l'an se livrer à un grand débat citoyen.
Oui, d'ailleurs, c'était une proposition pendant la campagne électorale du président Macron. Et de ce point de vue, il avait anticipé.
Il précisait pas devant les citoyens, et du coup, parce que ça n'a rien à voir, vous allez parler devant le congrès à Versailles.
Ah si, il précisait tirage au sort, je crois, si je me souviens bien. Il avait aussi évoqué avec... c'était sur la reddition des comptes, plutôt, avec collaboration de la Cour des comptes, je le rappelle dans le livre.
Pardonnez-moi. C'est ça la différence. Moi, je ne parle pas d'un compte-rendu de mandat.
Oui, oui.
Un compte-rendu de mandat, c'est venir et dire oh, « Regardez, wow, c'est vachement bien ce que j'ai fait. Bon, je n'ai pas encore fait ça, mais je vais m'en occuper. Tout va très bien, je vous ai expliqué, bye-bye. »
Là, c'est en sens inverse. C'est d'aller puiser...
En confrontation, oui, voilà. Bien sûr. Et c'est plutôt en sens inverse.
Laisser les citoyens délibérer, de voir ce qui en sort, mais au fond, de façon relativement sérieuse et précise, en leur offrant... par le biais du tirage au sort, mais on peut le faire aussi, évidemment, sur d'autres bases. Hein. On peut aussi réunir des élus. L'un n'empêche pas l'autre, bien au contraire. Oui, ça pourrait, enfin, on va tirer les leçons de ce qui s'est passé, mais ça pourrait en effet être une façon d'apporter un complément au travail politique qui relève d'ailleurs à la fois du législatif et de l'exécutif, en l'occurrence, mais de faire travailler au fond la population, puisqu'elle manifeste dans des enquêtes ou à travers des manifestations publiques comme les Gilets jaunes, le désir d'être consultée. Il faut la prendre au mot aussi, après tout.
Donc le président Delannoy institutionnaliserait un débat citoyen. Et le président Perrineau ?
Alors le président Perrineau, le jour
où... ça lui fait tellement plaisir qu'il répète le président Perrineau.
Voilà. Eh bien, lui, si vous voulez, moi j'ai une lecture de cette phase de crise dont nous sommes peut-être en train de sortir. Je ne sais pas ce qu'il en sera demain. Qui est une lecture, en effet, d'une crise majeure de la démocratie représentative. C'est ce malaise dans la démocratie représentative qui fait que le président de la République a ouvert une phase de démocratie participative. Est-ce qu'on doit considérer qu'il faut refermer la parenthèse et revenir aux mœurs tranquilles de la démocratie représentative ? Je ne le crois pas. Parce que un des moyens d'en sortir, ça sera de contribuer à institutionnaliser davantage la démocratie participative.
Et voilà, et là on arrive au cœur du vrai sujet pour les semaines et les mois qui viennent. C'est comment imaginer une articulation entre démocratie telle qu'on la pratique aujourd'hui, strictement représentative, donc j'enlève le strictement, une articulation entre démocratie représentative et démocratie citoyenne, que vous pouvez appeler participative ou délibérative, et selon les modes citoyens que vous choisissez. Et il y a une articulation qui a été tentée récemment, un peu par hasard, et qui a complètement, mais complètement raté. Laquelle ? Réponse dans quelques instants.
Olivier Duhamel sur Europe 1.
De 10h à 11h, vous écoutez Mediapolis avec Olivier Duhamel. Et ce samedi, Olivier, vous recevez le politologue et garant du Grand Débat, Pascal Perrineau, et le directeur de recherche au CEVIPOF, Gilles Delannoy.
Et tout près de chez nous, ces trois dernières années, il y a eu une tentative de combiner démocratie participative et représentative, un référendum, puis des décisions au Parlement. Où ça ? Juste de l'autre côté de la Manche. Comment ça se termine ? Dans un fiasco généralisé. De quoi parle-t-on ? Dans les médias britanniques cette semaine, Alice Baudry, directrice de la stratégie du développement à l'Institut Montaigne, scrute pour nous les médias internationaux pour nous choisir une petite perle. La petite perle de cette semaine, c'est en pleine couverture médiatique sans fin du Brexit, une présentatrice de la BBC, le BBC Newsnight, grande émission du soir sur la principale télévision britannique. Cette présentatrice, Emily Maitlis, a roulé des yeux en direct et soupiré de consternation lors de son interview d'un député travailliste, Barry Gardiner, qui décryptait les négociations suite au rejet de la proposition de Theresa May et qui était interrogé sur la position qu'allait prendre le Parti travailliste aujourd'hui et qui en gros répondait qu'ils allaient y réfléchir et en discuter entre eux. Donc le clash s'est terminé à ce moment-là quand elle lui a demandé. Il a répondu « C'est un parti démocratique, comme vous le savez. Son programme ne peut être élaboré par une seule personne un soir sur Newsnight. » Donc on avait quand même en plein épisode 272 du Brexit, au moment où le dernier vote avait eu lieu sur demande d'un report, si on votait l'accord finalement, quelle serait la position des travaillistes ? Et le type répondait qu'il n'en avait pas. Et ça a fait un buzz considérable sur Internet, et c'est une bonne illustration des immenses difficultés de... d'un référendum, dans le fond, fait n'importe comment, quoi, au départ, parce que c'est ça un peu le problème aussi. D'un référendum où les expatriés n'avaient pas le droit de voter alors qu'ils étaient les premiers concernés. C'est un référendum dans lequel la campagne s'est assez mal déroulé, etc., etc. Et maintenant, on ne sait plus comment en sortir. Alors, il y a une autre façon de lire et de regarder autour de nous, disons non plus les articulations des différentes formes de démocratie, mais entre un pouvoir et les gouvernés, c'est quand il y a des grandes révoltes populaires. Et en ce moment, nous avons, comme chacun le sait, et on sait aussi l'importance que nous y attachons ici à Mediapolis, la révolte en Algérie contre la réélection éternelle du président Bouteflika. Écoutez un journaliste écrivain sur Europe 1 mardi, Mohamed Sifaoui.
Il y a un ras-le-bol dans la société algérienne depuis longtemps. La société algérienne a été très prudente parce qu'elle a vécu et elle a subi les années noires des années 90, le terrorisme. Donc, elle a fait preuve de beaucoup de maturité, beaucoup plus que ses dirigeants. Et elle a trouvé le mode opératoire. C'est dire, on va manifester pacifiquement, on va rien casser, au contraire, on va même nettoyer après les manifestations. Et en plus, c'est une jeunesse. Je veux dire, c'est pas des barbus comme dans les années 80. Et le caractère pacifique a piégé le pouvoir. Donc, il lui fallait trouver une solution. La solution, je répète, ça a été la mise en place de cette mascarade qui consiste à faire croire qu'il y aurait un changement.
Donc je répète, Mohamed Sifaoui sur Europe, mardi. C'est toujours le problème d'un pouvoir politique quand il est confronté à la rue. C'est-à-dire, jusqu'où est-ce, quand et quoi céder, en fait. Quand et quoi céder. On l'a très très bien vu sur l'histoire des Gilets jaunes. C'est-à-dire que la première concession, ok, on laisse tomber l'augmentation de la taxe sur l'essence et le gazole, n'a pas suffi. En revanche, la seconde, 10 milliards plus grand débat, a relativement suffi. Qu'est-ce qui se passe en Algérie? Il y a une concession, il ne fera pas un nouveau mandat, on suspend l'élection présidentielle, mais en attendant, il reste, et là, ça ne suffit pas. Et c'est quand même intéressant. Est-ce qu'on pense que... Est-ce que l'adoption de formes de démocratie participative, citoyenne, est un outil pour éviter la rue? On a souvent dit que la démocratie représentative avait pour première fonction d'éviter les révoltes populaires violentes parce qu'elles permettaient de prendre en compte, filtrer et d'une certaine manière, au moins pour pas répondre aux demandes d'un peuple. Et maintenant, on se dit que ça ne suffit pas, ça ne marche plus. Il faut y ajouter des mécanismes de démocratie participative. Est-ce que c'est, dans le fond, pour répondre au même problème, Gilles Delannoy?
Si on prend l'exemple de la Suisse, oui, ça suffit, mais parce que la démocratie participative, avec des référendums à tous les échelons, avec tous les types de référendums lancés par le gouvernement, contre-propositions, initiatives populaires, donc on a tout l'éventail. Et en effet, en Suisse, on peut avoir le premier et le dernier mot quand on est citoyen, donc ça ne pousse pas à manifester. Mais c'est un système très particulier qui est allé très loin. Dans la...
Et puis les Suisses sont particuliers.
Voilà.
Aussi.
Et un petit point sur le Brexit.
Mais je vois qu'ils protestent en régie quand je dis les Suisses sont particuliers. Trouvez-moi un peuple qui vote le maintien de la vignette automobile, qui vote le maintien de la redevance alors qu'elle est trois fois plus forte que chez nous. Bon. Gilles Delannoy.
Oui, sur les procédures, parce que c'est la même chose pour le tirage au sort ou pour un référendum. Et puis comme Olivier Duhamel m'a nommé président, j'en profite encore quelques minutes. Donc quand on est président, je pense qu'il faut faire un référendum seulement à une stricte condition, c'est qu'on voit un avantage et un inconvénient, et dans la réponse oui et dans la réponse non. Parce que là, on est toujours gagnant. C'est-à-dire que si on pense que la décision est devenue trop difficile à assumer soi-même, on consulte le peuple pour qu'il l'assume lui aussi en ayant pris. Les référendums de type Brexit sont les référendums tout à fait pervertis parce que ce qu'on veut, c'est diviser l'opposition, forcer les gens à dire oui, parce qu'il ne faut pas oublier que le Brexit, c'est même le Remain, c'était moins d'Europe. Donc c'était pas pour et contre l'Europe, c'était moins d'Europe à la façon Cameron et encore moins à la façon UKIP. Ouais. Donc là on est dans un usage du référendum qui est tout de même un peu tordu. Alors il existe, il faut le connaître, mais on peut pas résumer le référendum à ses coups politiques. Il faut aussi rappeler que Cameron n'a pas suivi le conseil de Machiavel, c'est-à-dire quand on fait un coup qui marche, il faut jamais essayer de le faire deux fois. Donc il avait réussi à avoir les Écossais avec un référendum du tout ou rien. Il a voulu refaire la même chose sur l'Europe et il a perdu.
Machiavel, rappelé par le président Delannoy, quand vous avez un coup qui marche, il ne faut pas le faire deux fois. Mais, tout à l'heure, on a dit il faut tenir compte de tout ça et que ça ne soit pas qu'une parenthèse. Il faudrait peut-être institutionnaliser une forme de grand débat citoyen annuel. Ah, donc nous venons de dire deux choses. peut-être contradictoire, Pascal Perrineau. Vous nous répondez dans quelques instants.
10h, 11h, Olivier Duhamel sur Europe 1.
Jusqu'à 11h, c'est Mediapolis sur Europe 1. Et aujourd'hui, à vos côtés, Olivier Duhamel, on retrouve Gilles Delannoy, directeur des recherches au CEVIPOF et auteur du livre Le tirage au sort. Et Pascal Perrineau, politologue et garant du grand débat.
Et Justine a malheureusement raison, c'est seulement jusqu'à 11h, alors qu'on a envie quand même de vous poser plein de questions. Alors, comme il nous reste 3 minutes, vous allez essayer de respecter. Je vous pose des questions et vous répondez en quelques secondes. Oui ou non, plus le cœur de votre argument.
C'est comme un référendum, quoi.
Voilà. Oui, mais on donne l'argument.
C'est une logique.
Bah justement, on va commencer par ça. Le RIC, référendum d'initiative citoyenne, Gilles Delannoy, pour ou contre?
Peut-être.
Peut-être.
Voilà, bah nous voilà avancés. La LIC, la loi d'initiative citoyenne, pour ou contre?
Laissons le législateur faire son métier.
Oui, c'est, la LIC, c'est l'initiative citoyenne. Oui, oui, oui. La LIC, c'est ma proposition. Dans la semaine juridique, si vous voulez voir les sources, ça
très
rentre.
Bien, très bien.
Il y a, donc, au mois de janvier, non au RIC, oui à la LIC. La LIC, c'est-à-dire que les citoyens peuvent rédiger un texte de loi et à ce moment-là, le Parlement, s'il y a au-delà de, mettons, 2 millions de citoyens, a obligation de le travailler comme un projet de loi gouvernemental.
Oui, très bien.
Et puis il le vote ou il ne le vote
ou
pas.
Ou d'en proposer un autre, comme en Suisse.
Oui. Donc ouais. Ça, c'est assez...
oui.
Ça, c'est vraiment une combinaison des deux démocraties, on est d'accord.
Bravo au concepteur.
Une partie d'une assemblée citoyenne tirée au sort, que ce soit Sénat ou CESE, on rentre pas, CESE, on rentre pas dans le détail. Gilles Delannoy.
Oui, mais en utilisant différentes sortes de tirages au sort. Pas uniquement... il faut les deux. Il faut se servir de toutes les formes de tirage au sort. Il ne faut pas limiter le tirage au sort à la consultation populaire générale. Il peut servir à tout, mais aussi à celle-là, bien sûr.
Moi, je préférerais qu'à côté des deux assemblées, qui remplissent des fonctions d'ailleurs différentes, il y ait une troisième institution qui soit composée de citoyens tirés au sort.
Exclusivement. Ah oui, donc on remplacerait le CESE actuel par une assemblée de citoyens.
C'est ça, voilà. Une assemblée citoyenne, alors faut-il remplacer le CESE
Non mais attendez quand même, c'est formidable ce grand débat, parce que franchement je ne parle pas de mes invités là, parce que ce ne serait pas correct, mais j'aurais demandé à n'importe quel politologue et constitutionnaliste des questions comme ça, il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a un an, il m'aurait dit ça va pas la tête, et tout va très bien, ou alors non, il faut la 6ème République. Mais maintenant, il y a une telle ouverture d'esprit, je trouve, sur... D'abord, il y a une telle prise de conscience, c'est ça peut-être la principale leçon de ce grand débat.
Mais bien sûr.
Une telle prise de conscience du besoin de réarticuler quelque chose entre gouvernants et gouvernés, entre les dirigeants et le peuple. Et d'autre part, du coup, une ouverture d'esprit à des tirages au sort, à des assemblées de citoyens, à des grands débats, à des initiatives citoyennes qui sont absolument nouvelles.
Mais pourquoi, Olivier? C'est parce que depuis des années, peut-être même des décennies, on ne prenait pas au sérieux l'ampleur de la crise de la démocratie représentative.
Oui,
on ne prenait pas ça au sérieux. On faisait le constat, mais on n'en tirait pas les conséquences.
Exact.
C'est votre à partir du moment où on est sorti du modèle où je vais voter comme mon parti dit que je dois voter, soit parce que je suis militant ou sympathisant, etc., il est évident que ça allait créer le malaise auquel on assiste. Dans tous les pays, d'ailleurs, démocraties.
Messieurs, je vous remercie infiniment, Gilles Delannoy et Pascal Perrineau. Nous avons pu aller vraiment en profondeur sur le sujet. Du coup, ça nous a empêchés d'en traiter d'autres, et notamment cet atroce attentat terroriste en Nouvelle-Zélande. Alors, pour cet attentat, mais aussi parce que c'est un hommage à Bachung 10 ans après sa mort, mais aussi vu que la chanson s'appelle Immortel, parce qu'on peut suggérer à Bouteflika de la proposer aux Algériens, mais aussi, enfin, ça peut être un message de l'Europe aux Britanniques. Bref, Immortel, Bachung.
Je t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne? Le savais-tu déjà? Avais-tu devinez que des dieux se cachaient sous les faces aviné. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. As-tu vu ces lumières, ces pourvoyeuses d'été? Ces leveuses de barrières, toutes ces lampes épuisées, les baisers reçus, savais-tu qu'ils duraient? Quand se mordant la bouche, le goût en revenez. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels.
Ils sont immortels.
As-tu senti?
Merci à tous. Écoutez, j'ai déjà des retours me disant que cette émission est formidable. Alors faites-la écouter sur Europe1.fr. En replay, c'est très facile. On tape Europe1.fr, Mediapolis replay. Et nous, on se retrouve samedi prochain. Je remercie Jean-Luc Arblat qui a réalisé l'émission, Paul Lassalle qui l'a préparée, et Justine qui est là pour nous aider.
Merci Olivier Duhamel. Rendez-vous en effet samedi prochain à 10h pour un nouveau Mediapolis. Mais surtout, restez avec nous dans un instant. Vous saurez tout sur la cuisine avec la table des bons vivants de Laurent Mariotte. Bonjour Laurent.
Bonjour Justine. Ils sont beaux, ils sont frais nos épinards. On vous emmène les récolter et les cuisiner en Bretagne ce matin. Achetez bio, à qui faire confiance? Nous poserons la question à notre invité qui sort un livre sur le sujet. Et puis Justine, nous partagerons une quiche lorraine avec l'écrivain bon vivant Jean Tellet. À tout de suite.
À tout de suite Laurent.